face aux forces de l'ordre, des milliers de manifestants appellent au départ du président Bouteflika.
Allez signer cette pétition-là, là, que vous voyez.
Je l'ai pas signée.
Ces jours de grève, donc, dans la fonction publique...
L'appel au boycott s'inspire du mouvement de boycott en Afrique du Sud qui a participé à la chute du régime d'apartheid.
Pas un jour sans que les militants écologistes vandalisent une nouvelle œuvre. Aujourd'hui, c'était la statue du roi Charles qui a reçu une tarte à la crème.
En fait, on peut pas être dans cette optique où on n'est qu'une minorité à chaque fois à porter les combats. Et c'est vraiment que si on se mobilise toutes et tous, qu'on arrive à faire changer les choses.
Méditerranée, année zéro. Tout est à inventer. Et pour changer les choses... Construire, imaginer, il faut s'investir et s'engager.
Grève, blocage, manifestation, collage, réseaux sociaux, sabotage, pétition.
Nous, élèves de terminale au lycée Émile Zola, avons voulu questionner les raisons et les formes de l'engagement aujourd'hui. Pour nous, dans le lycée et au-delà, en Méditerranée. Ce que vous allez entendre est une enquête collective sur ce que font celles et ceux qui s'activent pour changer les choses et pourquoi. Des droits des femmes au climat, l'engagement, comment et pourquoi, un podcast réalisé dans le cadre d'Averroès Junior.
En fait, l'écologie, on sent concerné, mais on n'est pas dedans, alors qu'on est une classe de 30 filles, donc des droits des femmes, ça c'est quelque chose qui nous concerne directement.
Ouais. Non, c'est pour nous. On disait que dans le monde actuel, dans notre société, dans nous, notre quotidien, pour nous, c'est pas la priorité. On n'a pas dit que ce n'était pas quelque chose qui nous intéressait, mais pour nous, il y a d'autres priorités et il y a d'autres choses dont on aimerait s'engager pour changer notre quotidien. Et l'écologie, c'est pas le premier, notre priorité en fait.
En gros, c'est nous qui décidons, quoi. À un moment, il faut que les gens arrêtent de venir décider à notre place. Et moi, il y a une phrase que j'ai beaucoup combattue, c'est quand tu as des grandes personnes, des adultes qui viennent te voir quand tu es petit et qui te disent « Ouais, plus tard dans la vie, il faut être acteur de ton destin, faut que tu sois acteur. » Et en fait, depuis tout petit, moi, je dis aux vieux, en l'occurrence, arrêtez de me dire ça, moi, j'ai pas envie d'être acteur. Un acteur, c'est quelqu'un qui joue un rôle qu'on lui a déjà écrit, qu'on lui a déjà dessiné, qu'on lui a déjà tracé. Et en fait, j'ai envie d'être auteur. J'ai envie d'écrire, j'ai envie de décider, j'ai envie de réfléchir. Et c'est vraiment dans cette posture-là qu'il faut que vous soyez.
Nous avons eu envie de poser quelques questions aux élèves du lycée Émile Zola pour avoir leur avis sur l'écologie.
Vous sentez-vous concerné par la dégradation de notre planète ?
Oui, dans le sens où on est un peu tous responsables de la pollution, de tout ce qui y contribue et tout ça.
Oui, bien sûr. C'est une question qui est très importante à mes yeux, pour nous et puis pour les générations futures.
Ben, rien qu'en quand on regarde les informations, on voit qu'il se passe des dérèglements climatiques et donc du coup, on sent bien que ça a une conséquence sur nous. Donc oui, on est tous concernés.
Non, pas forcément.
Oui, je me sens concerné par la dégradation de notre planète.
Bah, je vois des différences sur le climat.
Bah, complètement. C'est un sujet qui est vraiment d'actualité et qui est très important.
Avez-vous des solutions pour lutter contre ça? Si oui, lesquelles?
Mais de faire plus attention à ne pas surconsommer l'électricité.
Le tri sélectif, les déplacements, la lumière, l'eau, l'économie de tout ça. Et la surconsommation des objets qu'on achète alors qu'on n'en a pas besoin.
Ah bah déjà, par exemple, on ne gaspille pas l'eau. Quand on se brosse les dents, on coupe le robinet. Voilà, le tri sélectif, on jette là où il faut jeter. Voilà, des choses comme ça qui permettent de pas trop gaspiller de l'énergie.
Là, qui me viennent en tête, pas du tout, désolé.
Le tri, recycler, j'en ai pas trop, mais oui, j'en ai.
Oui, faire attention à son quotidien, faire des changements sur ce qu'on mange, comment on se déplace.
Recycler mes déchets, faire attention aux lumières et ne pas acheter n'importe quoi si ce n'est pas un besoin.
Le recyclage.
Alors des solutions, des gestes au quotidien, des solutions globales, je pense que c'est plus difficile, plus compliqué.
Pour vous, quelle est la source majeure de cette dégradation?
Le réchauffement climatique et les gens aussi dans le monde qui ne font pas très attention.
La pollution et la surconsommation.
C'est à cause de l'être humain qu'il y a la pollution et qu'il y a aussi le réchauffement climatique et tout ce qui s'ensuit.
Oui, en partie, mais également, je pense, un phénomène naturel.
On gaspille trop, voilà. Que ce soit l'énergie, que ce soit l'eau, peu importe. Il y a trop de gaspillage. Donc du coup, malheureusement, on puise sur les ressources. Trop. On puise trop sur les ressources.
Pensez-vous que la pollution impacte le monde marin?
Tous les déchets qu'on peut jeter, par exemple, quelque part, ça peut retomber directement dans la mer.
Ça impacte les poissons, les coraux et tout ce qui se passe dans la mer et dans l'eau.
Oui, bah en fait, oui, puisque comme c'est jeté dans les lavabos, des choses comme ça, si c'est pas filtré ou nettoyé, si c'est jeté directement dans la mer, oui. Et ça arrive dans plein de pays. Nous, on a peut-être de la chance de filtrer un peu, mais dans plein de pays, ça arrive. D'ailleurs, même, je crois que... Même nos poissons, ils ont des problèmes de stérilité à cause de tout ce qu'on rejette dans les toilettes, etc., etc.
Les coraux qui meurent parce que l'eau est acide ou un truc comme ça que j'avais vu.
Oui, puisque c'est la planète tout entière et le monde marin, 75% de la Terre est recouverte par les eaux. Donc effectivement, c'est une part importante de la pollution.
Okay. Seriez-vous prête à vous engager pour cette cause et comment ?
Alors oui, et en faisant du tri et en jetant mes déchets dans la poubelle.
Oui, je serais prête, mais comment, je sais pas.
Non, j'ai pas le temps.
Alors moi personnellement, non, je serais pas prête à m'engager. Si on peut s'engager, on peut faire des manifestations, des pétitions, des boycotts de marques, faire attention à ce qu'on achète, ce qu'on... Comment c'est fabriqué, avec quoi et pourquoi, est-ce qu'on en a vraiment besoin, tout ça.
Alors l'engagement, oui, je le disais, par des actions au quotidien, des gestes au quotidien. Après, effectivement, pourquoi pas faire partie d'une association. Je n'ai pas franchi encore le pas, mais c'est fort possible que dans les années à venir, je m'investisse davantage dans une association, par exemple.
Tous les jours, je suis engagé. Je fais plein d'efforts, moi. Ben oui, je fais attention au gaspillage de l'eau, je fais attention à ce que je consomme. Après, s'il y a des choses à faire, oui, je suis prêt à faire des petites marches.
Et est-ce que vous avez déjà participé à des manifestations ou des choses comme ça pour l'écologie ?
Non, franchement, en vérité, non. J'ai pas... Alors, je suis solidaire, je suis solidaire, je sais que c'est important. Mais participer activement, non, non. Vérité, j'ai pas beaucoup de temps. C'est pour ça que je le fais pas. Mais je devrais. Ouais, je devrais.
Donc comment, étant enseignante, je vais essayer de m'engager et avoir un groupe d'élèves qui soit derrière moi et qui prennent vraiment les devants pour pouvoir gérer cette écologie au mieux possible, avec plein d'énergie et de volonté.
D'accord, merci.
Pour l'écologie, il y en a qui dégonflent des pneus.
Ou qui plantent des patates dans les trous des terrains de golf.
Nous, on n'a ni voiture, ni terrain de golf.
Mais on essaye de mobiliser le plus possible les élèves.
Dans notre établissement, les éco-délégués ont mis en place plusieurs actions. Des créneaux prévus pour ramasser les déchets sur le parvis du lycée. Des poubelles pour mégots. Mais dans notre lycée en général, on réalise aussi beaucoup d'actions. Comme une journée concernant au développement durable, des poubelles de tri dans le foyer.
Nous avons demandé à des élèves de répondre à un questionnaire. Nous avons analysé les réponses et voilà les résultats. 89% des élèves viennent en bus au lycée et seulement 11% en voiture. 64% ne pensent pas faire assez de démarches écologiques. Nous avons de la chance. 92% des élèves respectent le tri à la cantine. Et pour finir, 89% des élèves ont des parents utilisant des véhicules essence. Et seulement 8% d'hybride et 27% électrique.
Pour en revenir à nos patates, nous avons étudié les différentes luttes et manifestations qu'il y a dans notre région. On a trouvé des personnes qui s'introduisent de nuit dans des golfs pour y planter des patates dans les trous de terrain, pour se plaindre de l'arrosage automatique en pleine canicule. Mais on a aussi trouvé des personnes qui dégonflent des pneus des SUV pour se plaindre de la pollution. Et pour éviter et limiter la pollution.
Bref, dans le lycée, on est déjà bien niveau écologie, mais on a quand même des progrès à faire.
Nous avons également décidé d'interviewer notre professeur de physique-chimie, qui est référent du développement durable au lycée Émile Zola.
Est-ce que vous avez mis des choses en place au lycée par rapport à l'écologie ? Si oui, quoi ?
Le truc qu'on fait le plus souvent, c'est sensibiliser les élèves, on leur dit. Ouais. Par exemple, si je vous montre le film du zéro déchet, c'est de la sensibilisation. Il y a la réduction des déchets, donc ça, on en parlait, on est nul au lycée Zola par rapport à ça. Il y a la sobriété énergétique, consiste à faire des économies d'énergie non pas sous forme de travaux d'isolation, mais en faisant ce qu'on appelle des éco-gestes. Préservation de la biodiversité. Le jardin dont je vous parlais tout à l'heure, ça en fait partie. C'est lui le plus vieux projet écologique du lycée. C'est une obligation qu'il y ait du compost à la cantine. Vous savez, ils vous font mettre le pot de yaourt dans une poubelle, mais les déchets d'alimentation dans une autre. Voilà, ça fait partie de l'alimentation durable.
Nous sommes des élèves de terminale en bac professionnel esthétique et aujourd'hui, nous allons échanger avec Madame Dalzon, professeure référente de l'égalité filles-garçons dans notre établissement. Bienvenue dans cette interview consacrée à l'égalité entre filles et garçons dans le milieu scolaire.
Bonjour Madame Dalzon, je vais vous poser quelques questions sur l'égalité homme-femme. Donc vous êtes professeure référente dans ce lycée. Et tout d'abord, je voulais savoir quel est votre rôle en tant que professeur référent de l'égalité filles-garçons.
Eh bien, en tant que référente, avec le groupe de professeurs référents, parce que je ne suis pas toute seule, on essaye de mettre en place des actions au sein du lycée pour sensibiliser les élèves à cette notion de parité. Donc, par exemple, on a organisé l'année dernière un forum sur l'égalité, la parité, au mois de mars. Et donc, on a fait venir différents partenaires au sein du lycée qui ont échangé avec les élèves sur ce thème-là. Donc il y avait des associations type la Maison des Adolescents, il y avait des professionnels qui sont venus nous raconter dans le cadre de leur entreprise comment était mise en avant ou pas assez à leur goût la parité. Ça fait 2 ans que je rejoins le groupe et donc en fait c'est très collectif. Hein, dès qu'on a des idées qui peuvent venir des différents collègues qui sont en échange entre nous et puis on se dit bien allez qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc voilà comment est né le forum par exemple. Donc c'est assez récent finalement comme démarche.
Selon vous, quels sont les principaux défis que rencontrent les lycéens dans la lutte pour l'égalité des sexes?
Alors, je pense que c'est un petit peu les mêmes problèmes qu'on peut avoir dans la société d'une manière générale. Donc, par exemple, les filles ont du mal à, par exemple, prendre des filières scientifiques ou elles sont plus en doute sur leur capacité. Donc, bon, je pense c'est un microcosme. Le lycée, c'est le même microcosme que la société. Hein, voilà, on a un peu les mêmes difficultés. Les défis, c'est ça, c'est surtout aider les filles à prendre confiance sur, par exemple, les filières, encore une fois, scientifiques, où il n'y en a pas beaucoup. Leur donner plus confiance sur leur capacité à réussir. Je trouve qu'elles doutent plus que les garçons, d'une manière générale.
Donc, j'aimerais savoir quelles sont les actions qui sont menées dans le lycée pour l'égalité filles-garçons.
Et au sein des classes, il y a des formations aussi pour les collègues qui sont mises en œuvre pour sensibiliser en fait tout le monde dans le quotidien à essayer de ne pas avoir des réflexions du style « Oh, c'est une fille, alors c'est une bavarde, c'est une pipelette. Pourquoi une fille serait plus bavarde qu'un garçon ?» Ou alors « Ah, celui-ci, il est un peu désordre, il est un peu bougeant. Ouais, mais bon, c'est normal, c'est un garçon. » Donc essayer de lutter un petit peu contre tous ces préjugés. Donc ça passe par nos pratiques quotidiennes, en échangeant avec les collègues, en étant formés et sensibilisés. Et puis après, encore une fois, mettre en place des actions un petit peu ponctuelles au cours de l'année, un peu phares, un peu importantes, pour que tout le monde se sente impliqué.
Mais au-delà du lycée, comment et pourquoi les gens s'engagent et s'organisent?
On a posé la question à Amine Kessassi, qui est aussi un invité du festival Les Nouvelles Rencontres d'Aveiroès et qui est venu en classe nous parler de son parcours.
C'est un militant politique français de 21 ans, fondateur en 2020 et président jusqu'en 2024 de l'association Conscience, en lien avec les jeunes des quartiers nord de Marseille.
Je l'ai entendu dans BFM TV un jour, un journaliste qui avait mal coupé son micro et qui disait « Ah, le petit arabe des quartiers, il parle bien ». Et en fait, pourquoi nous, on est forcément étiquetés? Pourquoi nous, on est forcément à parler que de ce qu'il y a devant nous? Pourquoi nous, on n'est pas légitime de parler d'Europe, de parler de Total Energy, de parler de Marche pour le climat? Enfin, en fait, c'est le plafond de verre, c'est ça à un moment. C'est nous, on se le met, on se dit « Bah ouais, on n'est pas légitime, on est trop jeune, on est trop ci, on est trop ça ». Et en fait, on est trop, faut vraiment se les retirer, ces préjugés, ces préconçus et tout. Et du coup, on a choisi des thématiques, l'engagement de la jeunesse, l'écologie, la question de la lutte contre la drogue, etc. Et donc, du coup, on s'est beaucoup mobilisé sur les questions d'environnement. En fait, on explique le lien qui existe entre la justice sociale et la justice environnementale. Sans justice sociale, bah, il ne peut pas y avoir de justice environnementale. En fait, tu ne peux pas te battre pour l'écologie si les gens ne savent pas ce qu'ils vont manger à la fin du mois, si les gens n'ont pas de sous pour pouvoir se nourrir, si les gens n'ont pas de sous pour acheter du bio, pour acheter des produits cosmétiques qui soient plus respectueux de l'environnement, etc. Enfin, en fait, si les gens n'ont pas de sous, la transition énergétique, elle ne peut pas se faire. La transition écologique, elle ne peut pas se faire. Et la convergence des luttes, c'est ça. Je me présente aux européennes, j'arrive sur une liste, la liste des écolos. Ils avaient 14 députés européens. Et aujourd'hui, ils en ont 5. Et genre, nous, on se disait, allez, on va faire 12, on va faire 13%. Tous les sondages disaient qu'on allait faire un petit score. Mais nous, on se disait, non, c'est pas possible qu'on fasse un aussi bas score. Et du coup, je me prends une claque le 9 juin, le soir des élections. On fait 5%, score de merde. On n'a jamais fait ce score depuis 30 ans. Enfin, depuis 30 ans, c'est le pire score que les écologistes font. Et juste après, je suis investi sur une circo, le 13e et 14e arrondissement de Marseille. La députée qui se présentait contre moi, elle s'appelle Gisèle Lelouis, elle a 72 ans. Et c'est une Parisienne qui arrive à Marseille il n'y a pas très très longtemps. Et du coup, on fait quand même un score qui est assez honorable, puisqu'on fait le double de ce que la gauche avait fait. On fait 22 034 voix. Elle fait 22 800, donc le score est hyper serré. On n'a même pas 700 voix d'écart. Et donc là, ça te met une claque. Tu te dis, bah, en fait, c'est bon, ça sert à rien, quoi. Enfin, on s'est présenté deux fois, une fois aux européennes, une fois aux législatives, et on n'y arrive pas. Mais à côté de tout ça, ça m'a fait rencontrer plein de monde. Et en fait, ces gens que j'avais un peu méprisé un moment parce que je me suis dit, c'est des élus qui sont déconnectés, qui sont loin de nous, etc. Bah, aujourd'hui, ils m'appellent, ils me disent, Amine, qu'est-ce que tu penses sur ce texte de loi? On va travailler ça, on va voter ça au Parlement. Et du coup, il y a quand même un impact, parce qu'on arrive quand même à faire des choses. Et donc, en fait, cette défaite, je me dis, bah, on a doublé le score de la gauche, c'est-à-dire que la prochaine fois, ça sera la bonne. Et donc, en fait, te dire que les choses, elles changent vite, etc., c'est te mentir. Mais ceux qui arrivent à changer les choses hyper vite, qui arrivent à te construire des trucs de malade, à être élu au premier tour, etc., bah, en fait, c'est jamais des trucs qui durent longtemps, parce qu'ils n'ont pas le temps de se concentrer sur la base, ils n'ont pas le temps de solidifier les choses. Et moi, je préfère me dire que bah ouais, on l'a fait une fois, on a perdu, une deuxième fois, on a perdu, mais en fait, on bâtit des bases. Et en fait, c'est, tu vois, c'est à chaque fois, c'est des petites pierres qu'on pose et qui font que bah, à un moment, ça doit marcher. Il y a plein de choses à faire. C'est une bonne question et c'est pas à moi de vous dire ce que vous avez à faire. Et en fait, c'est même un des messages de l'association, c'est de dire, en gros, personne ne nous dit quoi faire, quoi. C'est nous, on décide de s'engager sur des sujets sur lesquels on veut s'engager. Il y a des sujets qui nous intéressent pas forcément et on va dire, bon, bah là, on veut pas y aller. Mais en fait, déjà, réussissez-vous dans un premier temps. Ayez vos diplômes, faites des choses et montrez que bah, les jeunes, c'est pas ce qu'on pense, quoi. Enfin, c'est pas l'image qu'on a de la jeunesse qui fout rien, qui est sur les réseaux, etc. Montrez une nouvelle image aussi de vos métiers, parce que les jeunes filles qui se lancent en cosmétique à Marseille, ils appellent beaucoup ça les cagoles. Et donc montrez une nouvelle image. Et déjà, ça, c'est un combat, je pense. Et puis après, c'est à vous, c'est à toi de voir ce que tu veux faire changer. Il faut commencer quelque part, il faut te dire, bah, il y a une injustice, un sujet ou un truc de bien. Au contraire, moi, j'aime bien le fait qu'il y ait des bus devant mon lycée et je veux qu'il y ait des bus devant tous les lycées. Donc en fait, ça peut être une porte d'entrée pour un combat. Mais ouais, mais dites-vous juste qu'en gros, vous engagez, c'est pas un truc chiant, c'est pas un truc que vous devez faire matin, midi et soir. Vous pouvez vous engager sur des trucs hyper locaux, hyper devant vous. Et si j'ai juste un conseil à donner sur l'engagement, c'est faites pas des trucs chiants, des trucs que vous allez pas aimer, des trucs où vous allez aller dans des réunions si vous aimez pas ça, des trucs qui vont vous prendre 30 heures. Faites des trucs où vous pouvez vous investir une heure, deux heures par semaine. Et en fait, c'est déjà un début, c'est déjà se dire que si on se met tous à donner une heure de notre temps par semaine, bah en fait, les choses, elles iront beaucoup mieux. Parce que bah, ça fait que finalement, en effet de masse, toi, t'as peut-être donné une heure. Mais dans cette salle, on est 30. Si on donne tous une heure, ça fait déjà 30 heures par semaine. Et en 30 heures, on peut en faire plein de choses. Et donc, en fait, la question de la place de la femme dans la société, elle est, je pense que c'est vraiment une des questions de notre siècle, quoi. Il y a la question de l'écologie, de l'environnement. Parce qu'on peut dire que l'écologie, c'est chiant. Mais quand tu vois ce qui se passe à Valence, par exemple, c'est chaud, quoi. la question environnementale, elle est là, quoi. Quand on dit, attention les gars, dans 20 ans, on ne pourra plus boire d'eau, dans 20 ans, à Marseille, on ne pourra plus marcher sur le Vieux-Port parce que ça sera sous l'eau, enfin, ça commence à arriver. Je voyais des gens à la télé parler des jeunes, parler des... Enfin, des gens qui ne sont pas concernés par les problématiques, c'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait, ils vivent dans leur bulle. Et je me suis dit à un moment, mais pourquoi pas nous? Pourquoi nous, est-ce qu'on n'est pas en capacité de parler? Pourquoi nous, est-ce qu'on ne vient pas nous demander notre avis? Enfin, tu demandes l'avis à quelqu'un qui a 93 ans sur les inondations à Valence. Ce qu'il en a à foutre, s'il fait encore 10 ans, c'est déjà très bien pour lui. Enfin, c'est nous, on va vivre dans ce monde, c'est nous, demain, on va avoir les inondations et tout. Et donc, du coup, enfin, c'est aux jeunes un peu d'être concernés et concerter sur des sujets bien particuliers, sur plein de sujets, mais notamment les sujets environnement, les sujets d'avenir, quoi. Enfin, le monde de demain, il est à nous, les gars. Et donc, en fait, enfin, on voit qu'il y a vraiment un enjeu à agir sur l'écologie. Mais moi, je suis d'accord pour qu'on mette aussi un coup de pied aux écolos et qu'on leur dise, enfin, c'est bon, descendez de vos arbres, quoi. Les écolos, ils font beaucoup de combats où ils se mettent sur des arbres pour éviter de détruire ces arbres, de les abattre. Enfin, descendez de vos arbres, quoi. Il y a des urgences. Il y a des gens qui ne mangent pas dans ce pays. Il y a des femmes qui sont battues. Il y a des femmes qui sont tuées. Il y a des jeunes dans les quartiers nord qui n'ont pas d'emploi et qui, du coup, seront tués à la fin du mois parce qu'ils vont tomber dans la drogue. Il y a des enfants qui n'ont pas aucune perspective d'avenir parce que, bah, y a pas d'emploi. Enfin, il y a vraiment plein de sujets. Et je pense que la crise sociale qu'on traverse, et j'inclus la question du féminisme dedans, c'est vraiment un enjeu de notre génération. La voie démocratique, elle est hyper importante. Et il faut se dire que le pouvoir politique, il repose sur ça. S'il y a des politiques, c'est aussi parce qu'il y a des gens qui y croient, c'est aussi parce qu'il y a des gens qui sont là. Et donc si nous, on décide des choses, si nous, on leur fait peur, si nous, on se met à tous voter, on a une arme qui est super puissante en France. Enfin, c'est notre droit de vote, quoi. Il y a des pays où les gens, ils peuvent pas voter. Tout à l'heure, on me demandait de quelle origine j'étais. Algérien, en Algérie, les élections, c'est 95% le résultat, quoi. Enfin, c'est pas du tout une démocratie, quoi. Et donc, on a de la chance d'être dans un pays où on peut s'exprimer, où on peut porter les choses, où on peut revendiquer des trucs, et il faut qu'on le fasse. C'est tout. T'as des gens, ils font la politique, c'est même plus se battre, c'est même plus aller défendre des gens, c'est même plus aller porter des sujets. C'est juste l'argent, l'indemnité, le pouvoir, le chauffeur, la reconnaissance et la petite écharpe pour les photos. Et en fait, enfin, leur engagement éclaté, là, moi, j'en veux pas. Et des actions concrètes, il y en a plein. On fait plein d'animations de quartier parce qu'on se dit, en fait, si on veut que les gens viennent nous voir, si on veut que les gens viennent nous parler, enfin, c'est chiant, quoi. On va pas faire que des réunions. On fait des réunions où on parle aux gens, on leur demande leur avis sur des sujets, on leur demande de travailler des questions. En fait, si les gens, ils viennent te voir que pour des réunions, se mettre autour d'une table, c'est nul. Enfin, les gens, ils viennent une fois, deux fois, après, ils te disent ciao. Et du coup, on organise plein d'actions. En fait, on essaie vraiment de se dire, faut pas que ça soit un truc chiant, quoi. Et ça, c'est, je pense que c'est la base de tout. Et en fait, la vie, elle est faite comme ça, elle est faite de combats, et il va toujours falloir vous battre plus que les autres, hein, parce que vous êtes des femmes, et donc il va falloir se battre plus que tout le monde, et c'est un mec qui vous dit ça. Mais les combats, ils sont parfois importants, et la route, elle est peut-être longue pour arriver à la réussite, mais on y arrive toujours.
Le sport, un truc de mec ? Ah non, non, non ! On vous emmène en Espagne, en France et en Algérie et on vous raconte comment le sport peut être un outil de lutte et d'émancipation, en équipe ou non, et les barrières qu'il reste à surmonter pour que les choses changent vraiment.
Je vous fais voyager en Espagne avec la joueuse espagnole du foot féminin, Jenny Hermoso. Elle est devenue une source d'inspiration pour les femmes du monde entier. Lors du sacre mondial de son équipe, elle fut embrassée de force par l'ancien patron du foot espagnol, Luis Rubiales, qui justifie son acte comme un petit bisou consenti. Après des semaines, elle a fini par démissionner. Des joueuses espagnoles ont fait grève pour soutenir leurs coéquipières en réclamant des changements immédiats. Jenny Hermoso témoigne qu'à aucun moment elle était consentante et qu'elle avait subi d'intenses pressions et déclare avoir été victime de harcèlement de la part de Luis Rubiales.
Décidément, il y a encore des progrès à faire. Depuis 2020 seulement, Juliana Antero s'intéresse et étudie l'impact des cycles menstruels et de contraception sur la performance des athlètes féminines pour les JO, car les menstruations ont des effets importants sur les conditions physiques. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de recherche à ce sujet, car il y a eu une surreprésentation des chercheurs masculins parmi les responsables d'études. Donc, le sujet féminin n'est pas quelque chose auquel ils pensent. Seulement 9% des études portent exclusivement sur les femmes. Il y a également moins de budget consacré aux femmes et trop de sujets tabous à propos des règles. Les tabous se créent à cause du manque de connaissances. Un exemple très récent, datant de septembre 2024, Lee Meizhen,
une athlète chinoise de 25 ans qui faisait un marathon et qui a eu ses règles. Le sang lui coulait entre les jambes, mais elle a dû continuer à courir pour ne pas perdre. À quand une meilleure considération pour les femmes ?
Toujours dans les JO 2024, la boxeuse algérienne Iman Khelif a été fortement critiquée sur les médias suite à son apparence masculine. Ce à quoi Iman Khelif répond « Je suis née femme, j'ai vécu en tant que femme et concouru en tant que femme ». En effet, accusée d'être un homme suite à son physique très développé et un visage androgyne, elle aurait un taux élevé de testostérone selon les rumeurs, accusée notamment de concourir volontairement dans la mauvaise catégorie, voire promouvoir les violences contre les femmes. Une injustice de plus pour les femmes dans le monde du sport.
Est-ce que c'est mieux en France ? Non, car il y a eu le tout premier match de rugby féminin Elite 1 diffusé sur Canal+ pour la toute première fois, le 2 novembre 2024. Par exemple, chez les hommes, le rugby est développé depuis très longtemps, alors que chez les femmes, le rugby féminin vient à peine de commencer à se développer.
Bonjour, notre groupe a pour projet de parler du droit des femmes et plus précisément la grève des femmes autour du monde. Tout d'abord, il y a plus d'un siècle, en 1909, il y a eu la grève des femmes à New York, organisée par des ouvrières de vêtements. Une grève dirigée par Fania Cohn, d'origine juive, immigrée aux États-Unis, pour fuir les attaques racistes et xénophobes russes. Cette grève a mobilisé plus de 20 000 femmes dans le but d'avoir une augmentation de salaire. Un an après, la plupart des fabricants de manteaux masculins se mettent en grève. Plus de 75 000 travailleurs participent à ce que l'on appellera la Grande Révolte. Le 25 mars 1911, un incendie se déclare dans le triangle Waste Company, tuant 146 travailleurs de vêtements. À la suite de cela, un comité sur la sécurité publique est formé, dirigé par la future secrétaire du travail des États-Unis. En 1965, la loi sur l'immigration et la nationalité met fin au système de quotas fédéral qui avait discriminé les immigrants d'Europe, de l'Est et du Sud, juifs, italiens, asiatiques et africains aux États-Unis depuis les années 1920. C'est une première victoire pour Fania Cohn, elle aussi immigrée et discriminée par la suite. Puis en 2011, 100 ans après l'incendie, Kalpona Akter, ouvrière de textile et militante syndicale bangladaise, prend la parole. Elle parle de la nécessité d'une réforme pour la protection des travailleurs et une augmentation de salaire dans les usines de textile et confection du monde entier. Réforme acceptée, c'est une deuxième et dernière victoire.
La grève des femmes en Russie 1917 est souvent considérée comme un événement clé qui a précédé la révolution de février. Le 8 mars a été un événement majeur. Des ouvrières de Petrograd ont protesté contre la pénurie de nourriture, les mauvaises conditions de vie et le manque de droits. Elles ont exigé des salaires plus élevés, des droits politiques et la fin de la guerre. Cette mobilisation a ouvert la voie à d'autres manifestations et a contribué à la chute du régime tsariste, faisant du 8 mars un symbole de la lutte pour le droit des femmes.
Grève des femmes, Chili 2019. Ces manifestations ont débuté en 2019 jusqu'en octobre 2021. Des femmes ont organisé une grève nationale pour protester contre les inégalités de genre, la violence et les abus dans le pays. Le 26 novembre, des milliers de personnes manifestent à Santiago pour le droit des femmes. Un photographe chilien de renom, Claudio Pérez, est agressé par la police en marge de cette manifestation pour les services publics. Avec le Covid au printemps 2020, les manifestations se mettent en pause. Les Chiliennes dénoncent un type de violence qui s'exerce sur elles, la violence à caractère sexuel. Devant cette situation, un groupe de femmes a créé une performance contestataire dont l'impact fut insoupçonné.
La grève des femmes en Pologne, particulièrement marquante en 2020, est un mouvement de protestation massive mené par des femmes contre les restrictions sévères imposées au droit à l'avortement dans le pays. Ce mouvement a pris de l'ampleur en réaction à une décision controversée du tribunal constitutionnel polonais qui a pratiquement interdit l'avortement en Pologne, le rendant illégal même en cas de malformation grave du fœtus. Ce jugement a déclenché une réaction massive car il supprime l'une des rares exceptions permettant l'avortement dans le pays. Cependant, le mouvement a marqué un tournant dans la société polonaise, rendant visible la résistance contre les politiques conservatrice et patriarcale du pays. Il a également inspiré des actions de solidarité internationale et des débats sur les droits des femmes en Europe et dans le monde. En somme, la grève des femmes en Pologne symbolise une lutte pour les droits fondamentaux des femmes et contre les ingérences politiques et religieuses dans des domaines intimes.
Ils en sont où, les droits des femmes dans les pays de la Méditerranée? Droit à l'avortement, droit d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation d'un homme, droit de vote. On vous dit tout et on zoome sur une thématique toujours d'actualité, le droit des femmes à s'habiller comme elles le veulent.
Nous avons analysé les droits des femmes dans les 4 pays de la Méditerranée, l'Espagne, le Maroc, la Grèce et la France.
Nous avons travaillé 3 droits essentiels pour la vie de la femme, le droit à l'avortement, le droit de vote et le droit à l'ouverture d'un compte bancaire sans un homme.
L'égalité des femmes varie considérablement entre ces 4 pays en raison de différences culturelles, historiques et législatives.
Tout le monde a le droit à l'avortement ?
L'avortement est autorisé en France depuis 1975, en Espagne depuis 1985 et en Grèce depuis 1986.
Contrairement au Maroc qui ne l'a toujours pas autorisé sauf dans des cas exceptionnels.
Et le droit d'ouverture d'un compte bancaire ?
Tous les pays l'autorisent, mais au Maroc, ce droit a été acquis en 2004.
Et enfin, le droit de vote.
Les premiers ont été l'Espagne en 1933, suivi par la France en 1945 et la Grèce en 1952. Pour le Maroc, c'est une monarchie, donc ni les hommes ni les femmes votent pour leurs dirigeants.
Pour continuer sur le droit des femmes, nous allons analyser le droit à l'habillement dans certains pays et comment nous le ressentons.
Selon vous, est-ce que les hommes et les femmes sont égaux dans tous les domaines ?
Selon moi, ils ne sont toujours pas égaux dans tous les domaines car on voit toujours une différence entre l'homme et la femme et une comparaison constante.
Je suis d'accord avec ce qu'elle a dit, l'homme a plus de liberté que la femme dans n'importe quel domaine.
Comment peut-on lutter contre cela ?
Pour moi, on peut lutter contre cela en manifestant ou en s'engageant pour donner un maximum de droits aux femmes, même s'il y en a déjà beaucoup qui ont été acquis depuis ces dernières années, notamment le droit à l'avortement qui a été mis dans la Constitution, qui est une énorme avancée. Mais pour moi, il faut encore se battre pour que les femmes soient au même niveau que les hommes.
Trouvez-vous cela normal ?
Personnellement, je trouve pas ça normal. L'homme et la femme doivent être égaux dans tous les domaines. Il n'y a pas de différence qu'on soit homme ou femme. On est tous égaux, on doit tous avoir les mêmes droits et les mêmes libertés.
Qu'est-ce que vous pensez des pressions sur l'habillement des femmes ?
Ben, moi, je trouve que l'homme a plus de liberté qu'une femme sur les vêtements. Il peut s'habiller comme il veut, alors que la femme va plus être jugée, observée, surveillée. Qu'un homme, elle ne doit pas s'habiller trop court, pas s'habiller trop long, pas s'habiller trop large. Donc dans la société actuelle, c'est très compliqué pour la femme.
Pour moi, un homme, quand il sort, il ne se dit pas « est-ce que ma tenue va faire réagir ? Est-ce que ma tenue va déranger ?» Alors qu'une femme, selon où elle va ou quand elle va toujours devoir réfléchir à si sa tenue est adaptée ou non. On voit une différence énorme quand même dans certains pays qui ont beaucoup moins de droits que nous. On peut prendre l'exemple de l'Iran.
Donc en Iran, une femme a manifesté en se déshabillant, en restant en sous-vêtements dans la rue.
Pour contester contre le port du voile intégral et autoritaire qui est imposé en Iran depuis un certain temps. Et chaque jour, elles perdent des droits et elles sont de moins en moins importantes aux yeux de la société.
Cette femme a été arrêtée, elle est en hôpital psychiatrique et on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Cette femme va sûrement être condamnée à mort ou condamnée à vie en prison.
Car elle a simplement voulu combattre ses droits et dire que son corps, elle en faisait ce qu'elle voulait.
Y a-t-il des solutions pour lutter contre cette inégalité ?
Oui, on peut inclure dans les programmes scolaires des modules sur l'égalité des sexes, le respect des choix individuels et des matières sur l'habillement.
On peut aussi se révolter et faire des grèves collectives, manifester et contredire les interdictions vestimentaires et l'inégalité homme-femme. Cela permet aux citoyens d'avoir la liberté d'exprimer leur mécontentement, sensibiliser le public et attirer l'attention des décideurs sur des problématiques dans la vie de tous les jours. Et renforcer la solidarité et la détermination.
Nous avons pensé que pour lutter contre la pollution, il faut jouer sur le visuel, donner envie aux gens de trier leurs déchets en le faisant de manière ludique.
Pour les mégots de cigarettes, on pourrait proposer un cendrier sur pied sur lequel 2 options seraient proposées, ou pour lequel les gens voteraient comme le débat sur le lait ou les céréales avant ou après.
Et pour les poubelles, une poubelle transparente avec une graduation sur laquelle serait écrit la quantité de pollution pour qu'on puisse se rendre compte de l'impact.
Qu'est-ce que vous pourriez imaginer comme action pour améliorer les problématiques liées à l'orientation ?
Il faudrait peut-être mettre en place quelque chose où les élèves de terminale pourraient peut-être aller avec une conseillère d'orientation, passer dans des classes de 4e, 3e, etc., pour pouvoir parler avec eux, discuter, leur expliquer qu'il faut bien réfléchir à leur filière ou voire même n'en prendre aucune, aller en général s'ils ne sont pas sûrs de leur choix parce qu'après ça va impacter leur vie, etc. Donc peut-être bien réfléchir et comme ça ils seront plus à l'aise après, et surtout expliquer aux filles, aux garçons qui peuvent aller dans tout type de filière. Des garçons peuvent aller en esthétique comme des filles peuvent aller en électricité ou je sais pas, tout type de filière en fait, tout type de filière mélangée, tout le monde peut y aller et il n'y a pas de critères spéciaux pour aller quelque part. Ben, en fait, je pense que c'est surtout un travail à faire sur soi-même, se dire qu'on est capable de tout, même si les gens sont contre notre avis ou que la société n'impose pas ça. Et ben, on devrait s'imposer nous et faire nos propres choix selon ce que nous on a envie et prendre confiance en nous.
Notre génération est la génération future. C'est à nous de faire changer les choses et le plus tôt sera le mieux.
S'engager, pourquoi et comment, un podcast réalisé par les élèves de la classe de terminale ESCP, Esthétique, Cosmétique et Parfumerie du lycée Zola. Léa, Maëline, Lucie, Clara, Chloé, Marie, Lola, Marie, Alban, Ilona, Nesrine, Luna Marie, Théani, Lou, Tilane, Julia, Lou, Célia, Olivia, Mia, Thelma, Mallory, Olivia, Jade, Solène, Laetitia, Lilou, Sabrine et Clara. Un grand merci à leurs professeurs, à Amine Kessassi et à l'équipe de l'action culturelle d'Averroès Junior, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à cette aventure. Réalisation et montage Nina Chastel, production Les Nouvelles Rencontres d'Averroès.